Comment se distingue le vrai chrétien, le catholique, par rapport aux autres hommes? Eh bien, cela ne se voit pas, mais c'est par la vie intérieure. C'est par la vie intérieure. Cette vie d'union à Dieu, cette vie contemplative, cette vie de la grâce. Et c'est pour nous, ici-bas, le plus important. Vous savez, notre âme est créée pour Dieu et elle ne peut vivre que de cette vie de Dieu. Alors, ce soir, nous allons essayer de voir un petit peu cette vie intérieure et puis comment on peut la développer. Alors, tout d'abord, quelques rappels sur l'importance de cette vie intérieure et puis aussi sur ce qu'elle est. Et puis nous verrons ensuite, bien que c'est la liturgie qui est la source de notre vie intérieure, nous préciserons. Monseigneur Lefebvre a déjà, dans les conférences que nous avons entendues, eu de très belles paroles à ce propos. J'essaierai de rajouter quelques réflexions. Alors, la vie intérieure, son importance. Je cite Dom Bélorgey, qui a écrit un petit livre sous le regard de Dieu. Enfin, ce sont une petite compilation des instructions qu'il donnait à ses novices. Et voici ce qu'il dit. Nous ne devons jamais oublier que ce ne sont pas nos actions qui glorifient Dieu et qui nous sanctifient, mais l'esprit avec lequel nous les faisons. L'homme vaut non pas par ce qu'il dit ou par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Dieu ne compte pas nos actions, mais il les pèse. Il faut ajouter avec saint Augustin, mon amour et mon poids. Donc ça, nous le savons bien, c'est en fonction de notre degré de charité, de notre degré d'élévation dans la grâce, eh bien qu'on peut juger de la valeur de l'action. On prend souvent l'exemple de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge à Nazareth faisait une petite action. Eh bien, cela, comme elle le faisait avec un amour immense, eh bien, était bien plus méritoire que tout le sang versé par les martyrs, parce qu'elle était très élevée dans la charité. Et c'est ce que nous dit Dom Bélorgey. Dieu ne compte pas nos actions, mais il les pèse. Il les pèse, il sous-pèse notre charité. Voilà l'importance de la vie. Pourquoi la vie intérieure, pardon, est importante. Et en reprenant encore une fois cette citation de notre Seigneur, cette parole qu'il dit à la Samaritaine, où le Père recherche des adorateurs en esprit, en vérité, eh bien, ce qui est à noter, c'est que Dieu recherche des adorateurs. En général, quand on recherche quelque chose, c'est qu'on ne le trouve pas facilement. Et malheureusement, vous le savez, donc il y a peu d'âmes qui sont vraiment toutes dévouées au bon Dieu, que ce soit dans n'importe quelle vocation. Et un auteur dominicain dit que ce sont ces petites âmes pleinement livrées à son action que Dieu recherche. Des petites âmes pleinement livrées à son action. Quelles sont ces petites âmes? Eh bien, ce sont des âmes dociles à la grâce. On peut dire encore des âmes disposées à l'action du Saint-Esprit. On peut compléter aussi en disant que ce sont des âmes aimant servir le bon Dieu dans les moindres choses. Et là, on rejoint évidemment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a écrit dans l'histoire d'une âme, au chapitre 11, « Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église, ma mère, que toutes les autres œuvres réunies ensemble. » Et cette petite action d'amour, eh bien, on peut le faire si, je dirais, l'Esprit Saint a les mains libres dans l'âme, dans notre âme. Voilà, ça se tient tout. Le plus important, donc, est cette charité qui doit se développer dans notre âme pour que, eh bien évidemment, nos actions aient un poids. Alors, qu'est-ce que la vie intérieure ? Eh bien, on va développer cette question en deux autres questions. Tout simplement, voir le principe ou l'origine, la naissance de la vie intérieure. Vous vous en doutez bien, je pense, quelle est cette naissance. Et puis ensuite, on verra un petit peu comment elle se développe. Vous connaissez cela aussi. Je reprendrai encore Dom Berlanger qui nous dit que c'est la vie divine que le Saint-Esprit nous communique par la grâce sanctifiante. Donc c'est lorsqu'une âme reçoit la grâce sanctifiante, c'est-à-dire au baptême, bien que la vie intérieure commence, que la vie de la grâce commence. Et c'est pour nous un devoir de développer cette vie intérieure, bien sûr. Sinon, on risque évidemment d'entendre ce reproche que faisait notre Seigneur dans sa parabole du mauvais serviteur qui avait caché son talent. Donc, mauvais serviteur, il fallait faire fructifier ce talent et ne pas l'enterrer. Alors, comment développer cette vie intérieure? Eh bien, vous le savez qu'au baptême, on reçoit ce qu'on appelle le cortège de la grâce. Ce sont toutes les vertus surnaturelles et les dons du Saint-Esprit qui vont nous aider, évidemment, à développer cette grâce. Alors, comment cette opération se fait-elle? Eh bien, je citerai le Père Lallemand qui nous l'explique. L'essence de la vie spirituelle et intérieure consiste en deux choses. D'un côté, dans les opérations de Dieu dans l'âme, dans les lumières qui éclairent l'entendement, dans les inspirations qui touchent la volonté, et de l'autre, en la coopération de l'âme aux lumières et au mouvement de la grâce. Donc il faut deux choses, l'action de Dieu et la coopération de la créature, bien sûr. C'est cela la vie intérieure. Dieu donne une grâce, par exemple par rapport à l'intelligence ou par rapport à la volonté, pour nous aider à accomplir une action surnaturelle, et en même temps on coopère à cette grâce. C'est ce que nous explique le Père Lallemand. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi utiliser autant que possible notre intelligence et notre volonté et essayer toujours qu'elles tendent vers le bon Dieu. Il faut les utiliser pour Dieu. Nos facultés doivent être utilisé pour le service du bon Dieu. Et puis, pour terminer, ces quelques rappels sur la vie intérieure. Il faut bien parler aussi de l'inhabitation de Dieu en nous. Le bon Dieu habite en nous par la grâce. Le bon Dieu habite en nous. C'est une affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. On peut lire ça dans l'évangile de Saint Jean. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. » Si quelqu'un m'aime, donc il faut aimer le bon Dieu, il faut aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Si on aime quelqu'un, eh bien, il gardera ma parole, c'est-à-dire il m'obéira. on obéira au commandement de Dieu, au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa loi sainte. Et alors, mon Père l'aimera. Donc Dieu aimera cette âme, bien sûr, qui répond. Et ensuite, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous ferons en lui notre demeure. C'est-à-dire que la très sainte Trinité habite dans les âmes. Et cela, donc, tant que l'on obéit au bon Dieu, vous le savez, et qu'on ne le chasse pas par le péché. C'est quand même assez étourdissant de penser que la petite volonté humaine qui est créée peut barrer le passage à toute puissance divine dans l'âme. Parce que Dieu a le respect des âmes, il les a créées libres, donc nous sommes vraiment libres. Quelques paroles consolantes de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, qui lui dit lors d'une apparition, « J'ai choisi ton âme pour être un ciel de repos. » Un ciel de repos sur la terre, pardon. « Et ton cœur sera un trône de délices à mon divin amour. » Voilà une petite âme, donc choisi par notre Seigneur Jésus-Christ et qui a pleinement répondu à son amour. Une autre citation qui est bien connue aussi de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Vivre, c'est communier à Dieu du matin au soir et du soir au matin. Nous le portons en nous et notre vie est un ciel anticipé. Évidemment, elle fait uniquement allusion à la vie surnaturelle, à cette vie intérieure. Vivre intérieurement, c'est communier à Dieu du matin au soir et du soir au matin. C'est-à-dire, en quelque sorte, ne pas perdre le bon Dieu de vue. Bon. On ne peut pas, si vous voulez, être complètement pris par le bon Dieu du matin jusqu'au soir, bien sûr. Mais il faut y revenir souvent, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas avoir cette vision béatifique sur la terre. Donc, être en communication constante avec le bon Dieu, bien sûr, vous comprenez bien ça. Mais il faut revenir souvent dans notre journée au bon Dieu. C'est tout ce qu'il demande. Alors, comment essayer de progresser dans la vie intérieure? Qu'est-ce qui peut nous aider? Eh bien, évidemment, la liturgie, de manière générale, va nous aider. Nous en avons déjà un peu parlé, donc à la messe. On va continuer à préciser un petit peu et faire, enfin, avoir une vision un petit peu générale aussi, si on peut. Alors, vous savez, la liturgie, en gros, c'est tout ce qui fait le culte, le service du bon Dieu, tout ce qui fait la vie de l'Église, on pourrait dire aussi. Et pour reprendre encore une fois la citation de Pie XII, c'est l'action sacrée par excellence. Sacré parce que c'est un lien direct avec le bon Dieu. Voilà. Alors, tout simplement, je vous présenterai un petit peu tout ce qui concerne la liturgie, donc faire un petit peu un petit tableau. On l'a vu déjà, donc il y a une partie extérieure, donc le culte extérieur. Alors, il y a d'abord les rites, c'est-à-dire toutes les cérémonies. Par exemple, le rite de la Sainte Messe, bien sûr. Ensuite, il y a tous les textes. Monseigneur Lefebvre en a parlé tout à l'heure. Il a parlé aussi, la plupart des textes dans la liturgie sont des citations de la Bible, donc l'Ancien et Nouveau Testament, mais aussi des prières ou des textes qui sont rajoutés par l'Église elle-même. Et il parlait de ces très beaux textes qui sont dans les messes, donc le texte propre, donc la collecte, la secrète et la post-communion. Ce sont vraiment des joyaux, des petites prières qui sont extrêmement riches. Et le latin a ce pouvoir, mais il a cette concision qui permet de dire beaucoup de choses en peu de mots et de faire, si vous voulez, une phrase très riche. Et c'est vrai, Monseigneur Lefebvre le soulignait vraiment de manière remarquable. Ce sont vraiment des petites prières qui sont remarquables et très riches. Voilà. Bon, ensuite, il y a aussi, vous connaissez aussi, c'est l'art sacré. Bon, Monseigneur parlait aussi des cathédrales. Et ensuite, après, il y a aussi la musique sacrée pendant la liturgie. Tout cela, ce sont des éléments extérieurs qui doivent aider, évidemment, à notre vie intérieure. On va le voir un petit peu dans les détails après. Ensuite, il y a les choses plus importantes, ce sont les actes liturgiques. Vous les connaissez. C'est en premier, Mgr Lefebvre l'a rappelé, c'est le sacrifice de la messe. Premier acte liturgique. Après, il y a tous les sacrements, bien sûr, et les autres sacrements, les sacramentaux. Vous avez aussi l'office divin. L'office divin qui est comme un écrin par rapport à la Sainte Messe. Tous les soirs, vous participez à l'office divin en chantant les complis. C'est le dernier office de l'office divin. Et puis, il y a l'année liturgique, cette année qui se déroule et qui nous rappelle tous ces mystères de la vie de notre Seigneur. Cette année, vraiment, vous le savez aussi, centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, après, il y a aussi ce qu'on appelle les pouvoirs liturgiques, dont c'est le sacerdoce, et puis la participation des fidèles aussi. Ils participent à la liturgie, évidemment. Voilà. On va un petit peu revenir sur quelques points par rapport à ce que l'on vient de dire sur la division de la liturgie et voir un petit peu ce qu'on peut faire pour que notre vie intérieure se progresse en utilisant ces éléments. L'influence des éléments extérieurs. Et on pourrait prendre une comparaison. Vous savez que toutes les créatures doivent nous rappeler le Créateur. Toutes les merveilles de la nature, quand on regarde un petit peu, quand on s'intéresse à la nature, on se dit, c'est pas possible, c'est tellement bien fait. Il y a un Créateur génial derrière. Normalement, une âme bien disposée, évidemment, pense tout de suite à cela. Et ça ne peut que porter à la louange. Je rappellerai encore le cantique des créatures de Saint-François. Et c'est vraiment ça. Il loue le bon Dieu à travers toutes les créatures, Saint-François. Et bien de même, les éléments du culte doivent nous porter au plus haut niveau, point de vue spirituel, au niveau même de bon Dieu. Je commencerai par la musique. Saint Pie X disait à propos de la musique sacrée, elle fait partie de la liturgie solennelle et doit porter plus facilement les fidèles à la dévotion et les mieux préparés, disposés à recueillir les fruits de grâce que procure la célébration des saints mystères. Il faut retenir que la musique liturgique doit porter les fidèles, les porter à la dévotion. Saint Augustin était même parfois ému du chant religieux, à tel point qu'il était presque distrait des saints mystères. On peut dire qu'il exploitait au maximum, si on peut dire, entre guillemets, cette musique liturgique, qui le portait vraiment vers le bon Dieu. Voilà. Il est vrai, parfois, la musique sacrée, quand elle est bien exécutée, peut nous transporter, entre guillemets, nous aider à nous élever. Mais il ne faut pas trop être distrait. Ça doit vraiment être une aide. Voilà. Monseigneur a parlé aussi des belles cathédrales. C'est vrai qu'il y a certaines architectures. Pour un prêtre, de célébrer dans un bel édifice, une belle église, ça change. Ça change vraiment, pas le sacrifice, mais l'atmosphère. On est vraiment porté à célébrer plus facilement les saints mystères, c'est évident. Les rites eux-mêmes, c'est plus important parce que c'est plus fréquent pour nous, on assiste régulièrement à la messe. Les rites, si on les examine bien, sont là pour manifester la sainteté de la Sainte Messe, par exemple, tous les rites de la messe. La sainteté, ensuite le respect du sacré. Il y a beaucoup de révérence, par exemple, on prend que la messe, on manifeste toutes les révérences à notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre représentant notre Seigneur Jésus-Christ. On a toutes des inclinations, des baisers, etc. C'est vraiment des signes de respect. Tout cela montre la sainteté qu'on doit avoir, donc ceux qui s'élèvent, mais aussi ceux qui assistent et ceux qui participent donc, à la liturgie. Donc la sainteté, le respect qu'on doit avoir envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela doit porter, encore une fois, à l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut savoir les utiliser. L'Église a justement le pouvoir de légiférer sur tous ces rites. Donc il faut savoir, si vous voulez, on pourrait dire, les redécouvrir régulièrement ou s'émerveiller un petit peu de ces rites. Le problème, c'est qu'on s'habitue toujours facilement, même aux choses les plus saintes, même à célébrer la Sainte Messe. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu, parfois, peut-être lire quelque chose pour nous inciter à mieux apprécier la liturgie, pour ensuite être pris davantage dans le Saint-Sacrifice, pour avoir cette vie intérieure qui vibre en même temps, si on peut dire, que la liturgie. Voilà, donc ce sont des moyens extérieurs qui doivent nous élever. Et puis, le pape Pie IX affirme qu'il existe un lien très étroit qui unit et associe la discipline au dogme, notamment la discipline liturgique. Bon, malheureusement, il y a un triste exemple avec le Concile Vatican II. Si on touche au rite, eh bien évidemment, la foi est menacée. Les rites sont en quelque sorte l'expression de la foi. Donc toucher au rite, c'est toucher à la foi. Donc on peut dire que tout ce qui est extérieur à la liturgie doit être pour nous un moyen eh bien, de nous recueillir et de nous élever. C'est le principal. Et pour cela, bon, essayer de découvrir, redécouvrir peut-être certaines choses de la liturgie, certaines parties de la liturgie. Et on peut même aider à la préparation de la liturgie. Bon, je pense qu'il y en a parmi vous certainement qui sont actifs dans vos chapelles, bien sûr. On peut participer au chant, évidemment, aussi, etc. Être partie prenante, parfois, on remarque mieux un petit peu donc, l'agencement de toute la liturgie. Voilà. Ensuite, parlons rapidement des actes liturgiques. Bon, déjà, la Sainte Messe, on vous en a déjà parlé. Comme le soulignait aussi très bien Mgr Lefebvre, c'est le centre, c'est l'action principale, c'est tout découle de la Sainte Messe. Je voudrais simplement citer à ce propos Saint François de Sales, qui nous dit que le très saint sacrifice de l'autel est le centre de la religion chrétienne auquel tous les mystères et toutes ses lois se rapportent. C'est le mystère ineffable de la divine charité par lequel Jésus-Christ nous comble de ses grâces d'une manière également aimable et magnifique. C'est donc par la Sainte Messe que le bon Dieu veut nous combler et nous comble. Donc il faut toujours avoir cette haute idée de la Sainte Messe. Voilà. Et puis, je soulignerai simplement les fruits de la Sainte Messe, parce que ce sont de ces fruits que l'on peut nourrir nos âmes. Et surtout, être unis au bon Dieu, parce que la Sainte Messe, c'est la louange la meilleure que l'on peut rendre au bon Dieu. C'est le Fils de Dieu qui loue son Père. On ne pourra jamais comprendre cette louange. Et seul notre Seigneur Jésus-Christ peut rendre gloire à son Père comme il le fait. Donc c'est la messe, et on pourrait dire le maximum de louange, le maximum d'honneur qui est rendu au bon Dieu. Donc, premier fruit. Ensuite, il y a l'action de grâce. C'est le meilleur remerciement que l'on peut faire au bon Dieu, c'est d'offrir une sainte messe. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ eh bien, fait cette action à notre place. Donc, c'est vraiment la meilleure action de grâce. Et à chaque messe, on répète ces paroles de notre Seigneur avant la première consécration, au soir de la scène, avant de consacrer, les évangélistes disent bien, il rendit grâce, il remercia. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous montre un exemple de, justement, d'être plein de gratitude constamment. Et surtout pour cette chose la plus sainte, pour la Sainte Messe. Ensuite, pour obtenir des grâces, bien évidemment, vous le savez aussi, c'est par la Sainte Messe que l'on obtient toutes les grâces dont nous avons besoin. Et ensuite, la réconciliation, c'est par la Sainte Messe, par le sacrifice du calvaire, que nous avons été réconciliés à Dieu. Mais là aussi, à chaque messe, évidemment, c'est un renouvellement de cette réconciliation. Saint Ambroise dit que le Seigneur est réconcilié et nous pardonne la multitude de nos péchés. Donc à chaque messe, on bénéficie encore de cela. Et ensuite, après, je le reprécise une dernière fois, j'en ai déjà parlé, on vous en a certainement déjà parlé aussi, c'est la satisfaction, c'est-à-dire que la Sainte Messe efface, quand elle est offerte pour ça, évidemment, bien sûr, les peines dues au péché. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi, qu'on vous a dit aussi que la Sainte Messe était la plus efficace pour les âmes du purgatoire, pour les soulager de leurs peines. Et puis, il y a un auteur capucin, donc le père de Cochem, qui a écrit un petit livre sur la messe que bon, vous avez probablement lu, il est très connu, donc l'explication de la Sainte Messe. Et dans cet ouvrage, il donne 77 perles, les perles de la messe. Bon, j'en ai quelques exemplaires, donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous servir, mais il n'y en a pas pour tout le monde, pour toutes. Je vais simplement en citer quelques-unes. Donc la 19e perle. Donc il nous dit, le père de Cochem, qu'il nous pardonne, donc notre Seigneur Jésus-Christ nous pardonne les péchés véniels pourvu qu'on les regrette, c'est qu'on ne veuille plus les commettre. Donc en assistant à la Sainte Messe, nos péchés véniels sont pardonnés, on peut racheter donc cette peine due aux péchés véniels aussi en offrant donc notre assistance à la Sainte Messe. La Sainte Messe, aussi en assistant à la Sainte Messe, c'est très important aussi pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ compense le bien qu'on a omis. Ça, c'est aussi extraordinaire pour nous, parce que nous sommes faibles, évidemment, et bien, il y a des péchés d'omission dans le bien. On peut être, évidemment, péché de ce côté-là. Eh bien, le fait d'assister à la messe, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ compense nos défections par rapport au bien qu'on aurait pu accomplir. Ensuite, une autre perle. Notre Seigneur Jésus-Christ donc répare nos négligences dans l'accomplissement du bien. Si on n'a pas accompli, si on n'a pas fait un bien de manière vraiment satisfaisante, bon, s'il y a eu un peu d'amour propre, enfin, un bien qui n'a pas été vraiment fait avec une bonne intention, eh bien, là encore, en assistant à la Sainte Messe, on répare cette négligence dans l'accomplissement du bien. Quoi d'autre encore? Ah oui, celle-ci aussi, bon, on le sait très bien, hein, donc on a l'honneur de contempler notre Seigneur Jésus-Christ, sous les espèces du pain, évidemment, et du vin, mais on contemple notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien se souvenir que si on assiste à la messe, il faut vraiment adorer notre Seigneur Jésus-Christ au moment de l'élévation. Il faut vraiment être tout yeux vraiment pour voir notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie et l'adorer, c'est très important. Et puis ensuite, que peut-on dire encore? Il y en a 77. Donc. aussi, bon, le père de Cochem nous dit, vous ne sauriez prier plus efficacement pour vos amis qu'en assistant à la messe. C'est vrai qu'en assistant à la messe et en priant, pour certaines intentions, eh bien, on a l'assurance d'être plus facilement exaucé. Voilà. Bien, il y en a d'autres, vous pourrez les consulter si vous voulez. Je les laisse là. Voilà, donc, participer à la Sainte Messe est vraiment très important pour nous, car évidemment, c'est vraiment la source pour notre vie intérieure et on voit tout le bien que l'on peut en tirer. Alors, les autres sacrements. Eh bien, vous le savez, hein, c'est par les sacrements que l'on obtient la grâce, ou qu'on augmente évidemment la grâce. Et ce sont vraiment donc ces actes liturgiques qui sont les principaux pour nous sanctifier et pour développer cette vie intérieure. Je dirais simplement, à propos de la confession, une citation de Pie XII, de son encyclique Corporis Mystici. Nous tenons à recommander vivement la confession fréquente qui augmente la vraie connaissance de soi, favorise l'humilité chrétienne, tend à déraciner les mauvaises habitudes, combat la négligence spirituelle et la tiédeur, purifie la conscience, fortifie la volonté, se prête à la direction spirituelle et par les faits propres du sacrement augmente la grâce. Que ceux donc qui diminuent l'estime de la confession fréquente sachent qu'ils font là une œuvre de très contraire à l'esprit du Christ et très funeste au corps mystique de notre Sauveur. Padre Pio, par exemple, se confessait tous les matins avant sa messe. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il avait à confesser? Des imperfections. Mais qu'est-ce qu'une créature devant Dieu? Néant. Il avait conscience de sa petitesse devant Dieu et surtout de la pureté qu'il faut avoir pour offrir le sacrifice de la messe. Et une fois même, son confesseur tardait. Eh bien, les fidèles disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade? Non, non, il attendait son confesseur. Et il a attendu que son confesseur vienne. Il n'a pas célébré la messe sans s'être confessé. Donc, ce n'est pas pour nous décourager, mais c'est pour nous montrer un idéal, donc pour notre vie intérieure. Il faut vraiment chercher à se purifier par les sacrements pour toujours progresser et être plus disponible intérieurement pour le bon Dieu, pour faire ce qu'il veut de nous. Et puis, je soulignerai aussi à propos de la confession ce blâme qu'avait eu dans un de ses documents pontificaux le pape Saint Pie X à propos de la confession des enfants. À l'époque, la première communion, vous savez, était assez tard, 12-13 ans, et on n'admettait pas la confession des enfants avant la première communion. Donc il a dit, mais non, le pape, vraiment, dès qu'il y a l'âge de raison, dès qu'on sait donc, qu'on peut faire mal, qu'on fait mal, bien, il faut absolument apprendre déjà à se confesser. Et c'est important pour les parents de bien discerner dès que l'enfant commence vraiment à être responsable. Ça peut être très tôt. Il y a certains enfants qui ont le jugement plus développé et qui le savent assez tôt. Bien justement, il faut déjà les préparer à la confession. Donc, voyez le grand bien que Sainte Thérèse a tiré de sa première confession. Elle était ravie après, elle voulait recommencer, pas tout de suite, mais souvent. Donc, c'est charitable envers les enfants, justement, de leur apprendre à aimer la confession. Donc, c'est vrai que ça peut être pénible, peut-être, mais c'est vraiment un acte de charité envers le bon Dieu. On aime vraiment le bon Dieu, on veut vraiment se purifier pour progresser. C'est vraiment une chose très importante pour notre âme. Et puis, donc, comme je faisais allusion donc, avec le Padre Pio, donc, pour la sainteté, pour recevoir les sacrements, donc, vous savez qu'il y a les sacrements des morts, donc le baptême et la pénitence, donc pour retrouver l'état de grâce ou pour avoir l'état de grâce. Et puis ensuite, les autres sacrements doivent être reçus avec, évidemment, l'état de grâce. Sinon, c'est un sacrilège. Il n'y a pas de fruit, surtout. C'est tout perdre pour notre âme. Donc, pour ces sacrements, justement, ces autres sacrements, il faut une préparation. Donc, je parlais de la confirmation, l'extrême onction, le mariage et l'ordre, surtout. Il faut une préparation. Donc, vous voyez l'Église, comme elle est prudente pour l'ordre. Il y a 7 étapes avant le sacerdoce. L'Église est prudente. Voilà. Il y a une longue préparation. Bien, alors, disons quelques mots sur l'office divin. On a encore un petit peu de temps avant le salut du Saint-Sacrement. Alors, l'office divin, bien, ça vient de tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il nous a dit. De prier tout le temps, de prier constamment. Petit à petit, il y a eu justement ces prières constantes dans l'Église primitive. C'est, on peut dire, Saint Benoît, le premier au VIe siècle, qui a un petit peu cadré les choses, si on peut dire, et qui a organisé donc la récitation des 150 psaumes pendant toute la semaine, ce que l'on fait encore. C'est ce qui constitue la majeure partie de l'office divin, sont la récitation des psaumes. Vous le savez très bien. Vous les récitez chaque soir depuis quelques jours, voilà, donc dans les complies, donc, trois psaumes. Tout cela pour développer la prière et favoriser justement le recueillement pour la Sainte Messe. Vous savez que l'office est organisé jusqu'à tierce pour préparer la Sainte Messe, et ensuite après c'est l'action de grâce à partir de sexte jusqu'en plis, l'action de grâce. Donc c'est partagé en deux l'office. Et au centre, c'est donc la Sainte Messe. Et tout cela est fait, encore une fois, pour être centré sur la Sainte Messe, pour être centré sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours la même chose. Et l'office divin est justement là pour développer la piété, pour développer notre union au bon Dieu. C'est toujours la même chose. C'est pour la vie intérieure. Et vous voyez, pour les prêtres ou les religieux, donc les prêtres, c'est-à-dire pour les clercs majeurs, c'est-à-dire à partir de sous-diacres, on est tenu à l'office tous les jours. Pour nous, les religieux, c'est ceux qui ont fait profession solennelle, qui sont tenus à l'office tous les jours. Eh bien, si on ne fait pas l'office pendant un jour, c'est sous peine de péché grave. Par contre, on n'est pas obligé de célébrer la messe tous les jours. Mais l'office est obligatoire. Par exemple, si un religieux qui est malade, il demande, s'il est vraiment malade, la permission au supérieur d'être relevé de l'office. Ce qui arrive de temps en temps, quand quelqu'un est vraiment malade, qu'il peut absolument pas réciter l'office, donc pendant la journée, il a vraiment, vraiment trop, la maladie est trop, trop forte, il peut avoir cette dispense, mais il faut une dérogation, il faut une dispense quand même du supérieur, par exemple. Bon, il arrive que dans certaines circonstances d'apostolat aussi, on soit empêché de dire l'office. Mais Monseigneur Lefebvre disait bien que dans sa vie, dans toute sa vie, il avait manqué que deux ou trois fois une partie de l'office. Deux ou trois fois à peine, parce qu'il a certainement des circonstances extraordinaires. Donc, voyez l'importance de l'office. Parce que c'est tout ce qui fait, on pourrait dire, le recueillement du prêtre ou du religieux. C'est vraiment, on pourrait dire, une atmosphère nécessaire pour développer la vie intérieure, pour développer l'union au bon Dieu. Donc, pour les laïcs, évidemment, ce n'est pas la même chose quand on vit dans le monde. Mais il faut avoir, si on peut dire aussi, cet esprit de piété, et parfois on peut recourir à certaines prières, peut-être de l'office, ou de le petit office de la Sainte Vierge, quand on a un peu de temps, pour se plonger un petit peu dans la liturgie. C'est aussi un moyen de l'utiliser pour notre vie intérieure. Puis là aussi, l'office est tellement riche. Les psaumes, comme dit aussi très bien Monseigneur Lefebvre, on dit tout avec les psaumes. Il y a tout dedans. C'est vrai. Et bien, à propos de cette prière de l'office, le pape Pie XII dit dans une de ses encycliques, pardon, Mediator Dei, à propos de l'office divin, donc, la prière officielle du corps mystique du Christ adressée à Dieu, que l'office divin, pardon, c'est la prière officielle du corps mystique du Christ adressée à Dieu, au nom et pour l'avantage de tous les chrétiens, par les prêtres et autres ministres de l'Église, ainsi que par les religieux délégués à cet effet. Donc, évidemment, les religieux et les prêtres sont tenus à cet office. Mais aussi, par exemple, dans le tiers ordre franciscain, il y a aussi un office qui a été approuvé par l'Église. Évidemment, c'est l'office des tertiaires, donc il est beaucoup plus court. Bon, il y a quelques tertiaires parmi vous, franciscaines. Donc, c'est un office qui est assez court. Hein, donc, mais c'est une prière officielle. Donc, la prière officielle, celui qui récite cette prière officielle représente l'Église devant Dieu. Donc, si vous voulez, celui qui prie, il a avec lui l'Église, il se présente devant Dieu pour prier, pour intercéder pour les autres. Vous voyez le poids d'un office. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux tertiaires, bien, si vous êtes vraiment coincé, placez plutôt l'office plutôt qu'une dizaine de chapelets ou le chapelet, parce que c'est un poids immense, hein, même si l'office est court. Voilà, donc je termine sur l'office, simplement pour vous dire que c'est vraiment par l'office vraiment qu'on peut catalyser, si on peut dire encore, vraiment la vie intérieure et l'augmenter. Je dirais simplement deux mots, parce qu'il reste deux minutes, sur l'année liturgique dont Mgr Lefebvre a bien parlé tout à l'heure dans sa conférence. Là aussi, tout est centré sur le Christ et toutes les périodes de l'année liturgique, il y en a sept, avec les deux sommets dont a parlé Mgr Lefebvre, tout est mis en place pour nous mettre dans une atmosphère chrétienne. Et ça, c'est très important pour notre vie spirituelle, pour notre vie intérieure. Aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'on vit vraiment dans un monde qui est à l'opposé de cela. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de se replonger souvent, personnellement, dans cette année liturgique. Simplement, vous avez dans les missels de fidèles, il y a parfois des petites explications. Parfois, ça suffit pour vraiment se replonger dans le dimanche où on va écouter la messe. Bon, on se replonge un petit peu dans le cycle liturgique, etc. Voilà. Donc, pour conclure, bien. Après tous ces exemples donc, de la liturgie, essayons de voir ce que l'on peut faire pour utiliser la liturgie pour notre vie intérieure. Essayez de bien penser que l'on peut utiliser cette liturgie pour affermir notre vie intérieure. Et cette façon que l'on aura d'appréhender, de goûter la liturgie sera toujours bénéfique pour notre âme. C'est pour cela qu'il faut, comme l'on dit toujours, approfondir tous les côtés de la religion, et en particulier donc la liturgie au sens large. Voyez. Donc c'est possible aussi de s'instruire de temps en temps en lisant un livre sur la liturgie, sur l'explication de la messe ou sur différentes choses. Bon, souvent, il y a des livres un peu techniques, mais il y a quelques livres qui sont assez, comme le livre de Père de Cochem, qui sont assez intéressants et que tout le monde peut lire et qui sont enrichissants et qui nous font mieux participer, si on peut dire, bon, surtout pour celui-là, à la Sainte Messe. Nous allons à la chapelle.